Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Il y a un sujet que j'ai envie de traiter depuis très longtemps, je vous en ai parlé dans l'épisode 200 d'ailleurs, et c'est la solitude. La solitude tout simplement parce que j'ai l'impression que c'est un sentiment que l'on partage toutes et tous, dont on ne parle pas beaucoup avec les autres, qu'on s'avoue très peu à soi-même. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Aïda Hendaï, qui est une enseignante de philosophie, qui est chroniqueuse sur France Inter dans Grand Bien Vous Fasse, qui est une contributrice de Philosophie Magazine et qui a écrit un certain nombre d'ouvrages. Et avec Aïda, on parle de cette problématique de la solitude. Et on parle en particulier du fait qu'on pourrait envisager que c'est un problème individuel, et en fait, c'est en réalité un problème collectif. Une conversation très... jovial, c'est la meilleure manière de le décrire, que je vous laisse écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour, Aïda.
Bonjour, Grégory.
Comment vas-tu aujourd'hui?
Écoute, ça va pas trop mal, c'est les vacances.
Ah, et ça, c'est une bonne nouvelle.
C'est génial.
Y a un sujet qui me travaille depuis longtemps, parce que je crois que... Il y a beaucoup de choses qu'on traverse en tant qu'occidentaux, beaucoup de mots, M-A-U-X. Il y en a un, c'est le stress, évidemment, mais il y en a un autre, c'est la solitude. Et c'est un sentiment, je pense que c'est le sentiment sans doute le plus partagé, et dont personne ne parle. Qu'est-ce que la philosophie a à nous dire sur la solitude ?
Alors, beaucoup de choses, c'est un vaste sujet, parce que si on prend le revers de la question de la solitude, c'est la question du rapport à l'autre et de la nécessité, en fait, d'être en rapport avec l'autre. Donc, c'est ça qui s'est justement accru de manière critique avec les confinements et la crise sanitaire. C'est la rupture de tant d'interactions sociales qui sont nécessaires. Et donc, c'est l'une des questions majeures de la philosophie, la question de savoir comment est-ce que le rapport et les interactions avec les autres sont nécessaires pour la construction de soi. Il y a chez Kant un concept assez rigolo qui s'appelle l'insociable sociabilité, et Kant, qui parfois ne manque pas d'humour, parle des autres comme ceux que je ne peux pas supporter, mais dont je ne peux pas me passer malgré tout. Donc il dit qu'on a à la fois une tendance à s'associer avec les autres pour tout ce que cette association est capable de nous procurer, de nous permettre de réaliser, de développer comme disposition, et en même temps une tendance à fuir en fait les autres, parce que il nous dit je sais que moi en fait je suis susceptible de faire obstacle aux projets ou aux intérêts des autres, et donc je postule chez eux cette même tendance. Donc voilà, c'est juste pour dire que il y a cette alternative en quelque sorte, ou cette contradiction en philosophie. D'une part, l'autre apparaît quand même comme cette presque ce miroir en fait nécessaire à tant de dimensions de notre humanité, et d'un autre côté la solitude pour la pensée par exemple, pour aussi l'introspection peuvent être aussi pensées comme nécessaires.
Donc c'est pas la phrase de Kant.
Donc c'est pas forcément négatif, la solitude en fait dans la philosophie.
En fait, ça fait la phrase que tu disais de Kant, ça fait penser à l'enfer, c'est les autres, de Sartre.
Oui, c'est ça. Mais justement, chez Sartre aussi, cette phrase, elle signifie pas nécessairement qu'on doit fuir les autres ou qu'on devrait fuir les autres. De toute façon, c'est pas trop comme si on avait le choix. Mais c'est plus une manière de dire que dans le regard de l'autre, justement, il y a toujours quelque chose de mon identité qui se joue. Donc en fait, l'enfer, c'est les autres, c'est vraiment l'idée que... quand je suis face à quelqu'un d'autre, je suis face en fait à un regard qui détermine, qui définit mon identité. Je peux pas échapper en fait au jugement, mais pas au jugement dans le sens de jugement de valeur. C'est pas tellement que l'autre me juge en bien ou en mal. C'est plus que, par exemple, si je suis assis tranquillement dans un parc seul, en train de lire et de, je sais pas, de passer un agréable moment au soleil. Et que d'un coup, quelqu'un surgit, en fait, ça change complètement mon expérience de ce moment. Parce que je vais me penser à travers le regard de l'autre, je vais penser en gros à comment est-ce qu'il me voit, comment est-ce qu'il me perçoit. Et du coup, ça produit ce qu'on va appeler la réflexivité, c'est-à-dire le fait de se regarder soi-même, et plus du tout une simple, disons, spontanéité dans laquelle je suis en train d'agir et d'être sans réfléchir à ce que je suis en train justement de faire ou d'expérimenter. Donc, quand il dit « l'enfer, c'est les autres », c'est plus une manière de dire que il y a quelque chose dans le regard de l'autre, dans l'interaction avec l'autre, auquel je ne peux pas échapper, en fait. Mais ça nous construit aussi, et c'est pas nécessairement négatif.
Et alors, en fait, ce qu'a apporté la société moderne, c'est, entre autres, un individualisme forcené. Je pense que ça a été renforcé par les réseaux sociaux. Et du coup, c'est pour ça que je disais aujourd'hui, l'un des mots qu'on traverse le plus, c'est sans doute cette solitude hyper profonde, en fait. Alors, je sais pas, en fait, étonnamment d'ailleurs, je sais pas si c'est une solitude hyper profonde par rapport à avant, entre guillemets, ce à quoi l'humain est habitué, voilà. Ou est-ce que c'est parce qu'on a des injonctions à l'action en permanence, qui fait que, du coup, quand on est seul, on se sent... D'autant plus seul. Mais c'est une réflexion. J'en sais rien, en fait. J'avoue que je sais pas. Mais est-ce que tu crois cette société individualiste, elle ne renforce pas justement cette solitude de manière forte? Il y a en Angleterre, ils ont créé, je sais pas si tu le sais, le ministère de la solitude, quand même. Je trouve ça assez dingue.
Je savais pas, c'est fou. C'est un vrai ministère de l'État, c'est pas une asso.
Exactement. C'est ouf.
Oui, je pense que, en fait, alors il y a plusieurs choses. En effet, cette tendance à l'individualisme, elle se joue aussi, je pense, beaucoup dans la comparaison aux autres. Et en effet, comme tu le disais, renforcé notamment par les réseaux. Donc effectivement, à la fois, je pense que les individus sont appelés ou amenés à poursuivre des intérêts justement personnels et individuels. Ouais. Et en même temps, il y a cette espèce de mise en scène quand même de soi qui est, je crois, quelque chose de, pour le coup, de constant dans l'histoire. L'idée qu'on joue un rôle, on le trouve déjà chez Pascal, par exemple. Donc il y a bien longtemps, mais c'est sûr que ça a été renforcé par les réseaux. Et de ce point de vue-là, je pense que ça renforce ce qu'on pourrait dire presque une solitude existentielle, pas forcément matérielle, parce que paradoxalement, ces réseaux, et puis d'une manière générale, l'existence, disons, actuelle, les interactions se multiplient si on laisse de côté le confinement et qu'on pense sur un temps plus long. mais paradoxalement, il y a cette solitude existentielle qui est que dans la comparaison aux autres, il y a une espèce de dévalorisation de soi, de jugement sur soi-même qu'on est amené à produire justement soi-même, et l'interaction avec l'autre ne devient plus finalement quelque chose de porteur ou de positif. Et ça, c'est quelque chose dont Rousseau parle déjà, sur le fait que justement la société, disons moderne, dont il fait une grande critique, la soi-disant civilisation qui en fait dénature l'homme, eh bien l'un des enjeux justement de cette dénaturation, presque on pourrait dire de cette corruption au sens presque religieux, quoi, de l'homme, c'est ce jeu de la comparaison, la jalousie, la concurrence. Et en fait, c'est assez fou parce que Rousseau, il dit ça au XVIIIe siècle.
Ouais, c'est dingue.
C'est dingue. Et c'est tellement ce vers quoi ceux qui s'accentuent, Donc il y a cette première dimension, je pense, en effet assez paradoxale, mais je pense que les individus, oui, sont assez seuls. Et moi, je le vois par exemple avec avec mes élèves qui sont donc en terminale, voilà, et qui sont pris typiquement dans ces injonctions très individualistes avec en fait le système de pour les études supérieures, où en fait chacun doit faire ses vœux, donc il y a quelque chose quand même de très concurrentiel. Et effectivement, c'est quelque chose face auquel ils sont en fait très seuls, même parfois quand ils peuvent être accompagnés par nous ou par par leurs parents, par exemple, quand ils ont la chance que ce soit le cas. Mais dans le fond, je pense que presque du point de vue affectif, oui, je dirais existentiel, l'expérience qu'ils font, c'est cette espèce de grande solitude parce qu'ils doivent à la fois veiller à leurs intérêts personnels, en même temps, ils n'en sont pas totalement capables parce qu'il y a un flou sur ce qu'ils vont pouvoir faire ou sur ce qu'ils vont pouvoir obtenir. Et surtout, et là, je pense que c'est aussi un des problème du système scolaire français, on leur apprend pas en fait quelque chose de collectif, on leur apprend pas la valeur en fait du travail collectif ou de la pensée collective ou de l'engagement associatif par exemple. C'est des choses qui sont pas du tout faites à l'école. Moi je trouve ça très dommage. Je pense qu'on devrait avoir une demi-journée par semaine où les élèves vont dans une institution. Et donc ça, c'est vrai que ça développe cette grande solitude. Et après, l'autre aspect, on pourrait dire, disons, c'est une solitude qui serait plus matérielle, quoi. C'est le fait d'être, disons, isolé matériellement, des personnes qui sont isolées. Ça, je pense que c'est quand même des situations qui sont très variables. Et pour le coup, justement, ce que le confinement, je trouve, a révélé, c'est vraiment qu'il y a une variété de situations. Il y a des gens qui sont vraiment isolés, qui en souffrent, et je sais pas, des personnes âgées ou des personnes qui sont malades d'ailleurs, ou juste des personnes qui sont seules. Je pense qu'il y a des gens, moi j'ai eu l'impression pendant le confinement que pour certaines personnes c'était au contraire le kiff absolu de se retrouver tout seul. Les personnes dépressives, par exemple, de ce que j'ai compris, étaient plutôt contentes du confinement parce que finalement tout le monde était sur le même mode qu'eux. Ce qui a été très dur, c'est le déconfinement pour le coup. Mais je pense qu'il y a eu quelque chose un peu du style. Bah voilà, c'est ce que je vous dis depuis le début en fait pour ces personnes-là. Donc je pense que tout le monde n'a pas souffert de la solitude et inversement d'ailleurs, je pense que d'autres personnes, les mères de famille par exemple au hasard, peuvent souffrir d'un trop-plein en fait, d'un manque de solitude de ce point de vue-là. Là, je pense que la solitude, vraiment au sens typiquement matériel, le fait d'avoir de l'espace et du temps pour soi seul, en fait, c'est aussi quelque chose d'ailleurs que notre rapport au travail dans la société ne pense pas. Et je pense que c'est aussi quelque chose justement qui doit être pensé collectivement et qui ne repose pas que sur une capacité individuelle à dégager du temps pour soi, en fait, ce qu'on n'a pas toujours la possibilité de faire compte tenu des contraintes économiques liées notamment au travail. Et de ce point de vue-là, je pense que voilà, on peut aussi se dire que pour certains individus, il y a presque un manque de solitude, en tout cas de temps et d'espace à soi.
C'est hyper intéressant parce qu'effectivement, je l'avais pas vu comme ça. N'ayant pas d'enfant, c'est vrai que je l'ai pas envisagé de cette manière-là, mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire ça. Est-ce que, je suis toujours un peu choqué par la phrase de Rousseau, cela dit, mais est-ce que la solitude, c'est un sentiment qu'on s'avoue à soi-même? J'ai l'impression que on n'en parle pas beaucoup aux autres, mais on s'en parle pas non plus vraiment beaucoup à soi-même. On se rend même pas compte qu'en fait, on se sent seul.
Je pense que c'est difficile d'en prendre conscience parce que justement on est pris quand même beaucoup dans des rapports sociaux. Comme tu disais aussi tout à l'heure, il y a tout ce stress en fait de l'existence plus ou moins intense, mais dans le travail, les contraintes matérielles, ça fait que finalement, comme on le disait un petit peu tout à l'heure, on n'éprouve pas forcément cette solitude matériellement. Et peut-être d'ailleurs, comme tu le dis aussi, on ne veut pas l'avoir. C'est une manière, cette fameuse phrase de Pascal qu'on a beaucoup entendue justement pendant le confinement, qui dit que tout le malheur des hommes vient de ce qu'ils ne peuvent pas rester, ils ne savent pas rester seuls, assis dans une chambre, à ne rien faire. Et ce qu'il appelle le divertissement, c'est vraiment toutes les activités dans lesquelles on s'abîme, que ce soit la poursuite du pouvoir, Le divertissement tel que nous on l'entend aujourd'hui, par exemple, la chasse, la poursuite des femmes, enfin c'est ce dont parle Pascal. Mais même finalement se plonger dans le travail, même se plonger dans l'étude, tout ça, ça relève de ce qu'il appelle le divertissement, c'est-à-dire cette manière dont on va faire diversion. Alors après, il y a une dimension évidemment religieuse, c'est pas chez Pascal. L'idée, c'est que cette diversion, elle nous sert à ne pas nous confronter à notre propre finitude, à la faiblesse de notre condition. Bon, sans aller forcément jusqu'à cette interprétation-là, on peut voir en effet que on est incité ou invité à finalement développer toutes ces activités, à avoir ce rythme en fait effréné qui fait que la manière dont on se sent vraiment en fait, et cette oui, je pense cette solitude profonde qui est finalement le fait qu'on se sent pas suffisamment armé face aux difficultés de l'existence et qu'on aimerait avoir parfois peut-être plus de soutien. Et ça, c'est difficile à s'avouer aussi parce que c'est une vraie souffrance. Alors après, moi, je suis un petit peu optimiste quand même.
C'est bien.
Parce que voilà, c'est vendredi, soyons optimistes. Parce que j'ai l'impression que ça change quand même chez les nouvelles générations, justement. Alors ça dépend, enfin voilà, c'est toujours difficile de généraliser, le jeune n'existe pas. Mais
n'est-ce pas ?
Voilà. Mais c'est vrai que, notamment dans le rapport au travail, dans le rapport aux valeurs, dans le rapport au sens de l'existence, dans le rapport aussi justement à l'engagement en fait collectif, associatif, il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui est vraiment en train de changer. Si on regarde par exemple les priorités, les, disons, 18, 30 ans vont hiérarchiser, en fait, les priorités dans le choix d'un travail. La rémunération arrive super bas, en fait. Et ce qui arrive en premier sont les valeurs, c'est le sens, ce qui sont quand même des questions très collectives, en fait. Les valeurs, c'est quand même des questions collectives, les questions de choix de société, de rapport à l'écologie, évidemment, c'est très important aussi. Le rapport entre l'articulation entre la vie privée et la vie professionnelle, ça peut être une question individuelle, mais je pense que ce sont aussi des choix de société qui doivent être développés, réfléchis, déployés. Il y a des associations, par exemple, qui proposent des dispositifs où on travaille 4 jours par semaine. 4 semaines par jour, ça fait beaucoup. Donc, 4 jours par semaine.
Ça arrive.
C'est ça. Et on garde un jour, en fait, pour un engagement associatif, en fait. Et donc, j'ai l'impression quand même qu'il y a... De ce point de vue-là, moi, je suis quand même assez optimiste. Alors peut-être c'est une certaine jeunesse qui a les moyens matériels de se projeter dans un emploi qui va être peut-être moins rémunérateur, mais qui aura plus de sens. Mais malgré tout, si on compare justement même dans les milieux aisés, justement aux jeunes générations qui faisaient des grandes écoles, qui cherchaient forcément le travail le plus rémunérateur. Il y a un vrai changement qui me laisse à penser que quand même cet individualisme, effectivement, notre génération, disons, et peut-être celle de nos parents, on a finalement tellement souffert pour un résultat parfois nul, parce que quand les gens...
On peut se le dire.
Voilà, perdent leur travail ou voilà, finissent par arriver à la fin de leur vie et n'avoir pas vraiment eu le temps de profiter de leur famille ou des autres et en même temps n'ont pas forcément... réussi à s'élever socialement, bah du coup le résultat c'est zéro en fait. Et les jeunes générations qui ont vu leurs parents vivre comme ça, je pense que c'est vraiment quelque chose dont il y a un rejet très très fort en fait. Donc on peut espérer que quand même il y ait quelque chose de collectif qui soit en train de réémerger, et on l'a un petit peu vu, les engagements de la jeunesse, que ce soit pour le climat, que ce soit... C'est pas ce mouvement des jeunes filles qu'il y avait eu dans les lycées pour le crop top, en fait.
N'est-ce pas ?
C'est des choses qui sont plutôt joyeuses et qui peuvent nous rendre un petit peu optimistes.
Effectivement, c'est hyper intéressant ce que tu racontes sur les jeunes. Après, je me demande si c'est pas le propre de la jeunesse de... Tu vois, d'être en mode challenging, et puis en fait, après, tu te fais prendre dans cette grande machine capitaliste, individualiste. Je sais pas, c'est toujours très étrange. Quand tu parlais tout à l'heure, il y a un truc qui a résonné où je me suis dit le pire, c'est quand même de se sentir seul parmi les autres. Et en fait, j'avais eu cette discussion avec un sociologue qui s'appelle Bruno Martzloff sur la ville, et il disait en fait, sociologiquement, c'est prouvé que plus la ville est grande, plus tu te sens seul. Parce qu'en fait, tu apprécies cet anonymat, et en même temps, cet anonymat, il te renvoie
au fait d'être seul. Et je sais pas, ça me fait penser à cette situation qu'on a tous vécue, où t'es en soirée et t'es tout seul. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu prends ton téléphone pour faire genre, tu fais un truc. Je pense que ça résonne à peu près chez tout le monde. Chez The Baki, elle n'a jamais fait ça. Avant, on allait fumer des clopes. Moi, j'ai jamais fumé, mais avant, on allait fumer des clopes. Maintenant on prend son téléphone.
En Amérique.
Alors, non, les soirées reviennent.
C'est vrai.
Mais est-ce que le pire, c'est quand même pas de se sentir seul quand t'es entouré, finalement?
Oui, c'est-à-dire que je pense que la difficulté de ces liens sociaux, disons très faibles, qui se multiplient en effet, notamment dans des espaces, comme tu disais, très très denses, c'est que ce sont pas des vraies interactions, en fait. Et en fait, dans le ce qui se joue quand même dans le rapport aux autres, c'est une forme de reconnaissance, hein, au sens où, en fait, je vais déployer finalement une dimension de ma personne au travail, avec mes amis, etc. Et j'ai besoin que l'autre me renvoie justement cette dimension. Donc c'est ce que Hegel appelle la reconnaissance, mais ça n'est pas la reconnaissance au sens de gratification sociale ou salariale. C'est vraiment la reconnaissance dans le sens où ce qu'on appelle l'intersubjectivité, le fait de se parler entre deux sujets, c'est ça qui me valide en quelque sorte, qui me constitue comme ce que je suis. Et je pense que d'ailleurs, c'est ça dont finalement on a beaucoup souffert dans le confinement, c'est qu'on a réduit nos interactions et donc on a réduit les dimensions de notre être. En fait, on était le fait de d'avoir une multiplicité d'interactions, ça fait que voilà, parfois je suis quelqu'un qui travaille et du coup j'ai des interactions avec mes collègues qui me permettent de déployer cette dimension-là. Parfois je suis une amie, une mère, etc. Bon. Et donc le fait est que en effet quand on est dans la rue, par exemple quand il y a beaucoup de monde dans les transports, en effet
dans la ligne 13
alors moi je connais plus RER A, mais c'est à peu près le même combat. C'est pas du tout des interactions de ce type, puisqu'il n'y a pas d'interaction en fait. Donc c'est juste presque des frictions en fait, parfois même physiquement, et du coup on se retrouve à manquer en effet de ce besoin de reconnaissance qui est vraiment essentiel, et c'est ça qui peut renforcer ce sentiment de solitude en effet. Et c'est toute cette question quand même, je pense, fondamentale, a fortiori parce qu'on est en année électorale, de comment est-ce qu'on arrive encore à préserver le lien social. Je pense que la difficulté, c'est que vraiment la notion de communauté, finalement presque au sens antique, l'idée que vraiment en fait, ce que Aristote, par exemple, va définir comme le lien entre les citoyens, c'est l'amitié, en fait. Alors évidemment, c'est pas l'amitié entre potes qui vont boire des coups au café, mais c'est quand même cette reconnaissance d'ego. Et c'est sûr que, disons, l'individualisme au sens très large a complètement perverti cette dimension-là de la politique au sens très large aussi. Parce que d'ailleurs Rousseau, là encore, avait totalement anticipé. Et c'est vrai que les espaces urbains très denses, très stressants, renforcent ce délitement, disons, du lien social et ce sentiment de solitude.
Et c'est marrant parce que tu vois, quand tu me parles de tout ça, moi, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je me questionne. Et tu parlais du fait d'avoir des enfants. Moi, je remets beaucoup en question le principe de famille nucléaire. Donc, pour ceux qui connaissent pas le principe, mais la famille nucléaire, en fait, c'est la famille dans laquelle on vit, dans laquelle on est tous plus ou moins nés, j'imagine. C'est-à-dire papa, maman et les enfants. Mais en fait, c'est un concept qui est assez récent parce que je pense que avant les années 50, c'était pas forcément comme ça. Donc, c'est à 70 ans, c'est hyper récent et j'ai l'impression pour côtoyer quand même pas mal de gens qui ont des enfants, que ce système ne fonctionne pas du tout de famille nucléaire. Et de la même manière, les grandes villes, les grandes mégalopoles, tu vois, il y a le mot mégalo à l'intérieur, d'ailleurs, c'est intéressant. Ça fonctionne pas non plus, en fait, finalement, sans vouloir dire c'était mieux avant ou quoi que ce soit. Peut-être qu'il y a quelque chose dans la construction de nos humanités, finalement, qui est que on est fait pour vivre dans des petits groupes d'humains, alors qu'on essaye de recréer bon an, mal an, mais on n'est pas vraiment fait pour vivre comme ça, séparé des uns des autres, séparé de sa famille, élever des enfants tout seul, enfin tout seul ou à deux, et même pour le développement de l'enfant, finalement, c'est pas forcément le truc le plus riche pour lui, finalement.
Oui, alors il y a beaucoup de choses. Alors la première chose, c'est que Justement, moi, je pense que cette question des enfants, elle est assez centrale, en fait, parce que c'est aussi ça qui, justement, d'une part, je pense, de cette manière, favorise l'individualisme, parce que à la fois, il faut travailler pour assurer des conditions matérielles pour pouvoir juste s'occuper de ses enfants et vivre avec eux, enfin, assurer pour nous dans les, voilà, dans les grandes villes où l'immobilier est si cher. Et aussi, c'est ça qui fixe, de cette manière, c'est beaucoup plus difficile de, je pense que ça accroît l'inertie déjà assez fondamentale des êtres. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur la jeunesse, c'est justement quelque chose qui est en train de changer. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne, en tout cas, pour qui le fait d'avoir un enfant est une question, va pas de soi, sans vouloir dire dès à présent qu'ils en feront pas, mais et ça, à mon avis, ça peut être un énorme bouleversement parce que du coup, ça engage presque toute la vie derrière, et notamment ce rapport au travail, cette place du travail dans la société, cette question du collectif, de l'engagement, etc. Tout ça, en fait, on peut inventer vraiment de nouvelles manières de vivre beaucoup plus facilement, en fait, si on n'a pas d'enfants qui tendent, enfin, qui vont développer cette tendance, en effet, à se refermer sur la famille nucléaire. Et ensuite, donc, sur l'autre sujet, sur la question vraiment